Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 127, Daf Kuf Kaf Zain. Bonne écoute et bon limoud.
Amemar Amar, Af Eno Memaet Chelek Bechora. La présence d'un tumtum dans une famille n'amoindrit pas la deuxième part revenant à l'aîné. C'est-à-dire, admettons que dans une famille, il y avait trois enfants, dont un aîné. Normalement, l'héritage est partagé en quatre parts. L'aîné en reçoit deux, donc la moitié de l'héritage, et les deux autres enfants reçoivent chacun une part. Maintenant, si l'un de ces enfants était un tumtum, l'héritage sera tout d'abord partagé en trois, donc comme si cet enfant n'existait pas, et l'aîné recevra l'une de ses parts, puis ensuite, ils partageront le reste de l'héritage en trois, et chacun des enfants, le tumtum compris, recevra une part. Par exemple, si l'héritage était l'équivalent de 9 manées, l'aîné recevra tout d'abord l'équivalent de 3 manées, qui est sa deuxième part de l'héritage, puis les 6 manées restants seront partagées équitablement entre les 3 héritiers, donc chacun recevra 2 manées. En tout, l'aîné aura reçu 5 manées, et les autres enfants auront reçu chacun 2 manées. Alors que si cet enfant n'était pas tumtum, l'aîné aurait reçu 4 manées et demi, et chacun des enfants aurait reçu 2 manées un quart. Chez Neymar, parce que le pasouk dit, toujours dans Dvarim Kafalef, il faut lire ici, selon le Masorot Hashas, Vialdulo Banim, et ces deux femmes dont le pasouk parlait précédemment, lui enfanteront des enfants. C'est le passage qui précède le passage que nous avons mentionné précédemment, Vahaya ben Abechor la Senia, et l'aîné était celui qui est né de la femme qu'il n'aimait pas. De la même manière que, comme nous l'avons vu précédemment, nous avons appris de ce passage que le tumtum n'a pas le droit d'aînesse. Nous apprenons aussi que l'aîné reçoit sa deuxième part en fonction du nombre d'enfants mâles dès la naissance. Donc, si l'un des enfants était tumtum à la naissance, celui-ci ne sera pas pris en considération pour calculer la deuxième part de l'aîné. Rav Shizdi Amar, Af Enonimol Leshmona. Ce tumtum ne sera pas non plus circoncis le huitième jour. C'est-à-dire, même si dans les jours qui suivent sa naissance, il s'avère qu'il s'agissait d'un garçon, il n'y a pas de mitzvah particulière de le circoncire le huitième jour. Par conséquent, si le huitième jour qui suit sa naissance tombe un Shabbat, sa circoncision sera différée. Dehamakra, parce que le pasouk dit dans Vaikra Yudbet, Isha kitazria veyalda zahar, une femme qui sera fécondée et enfantera un mâle, donc un garçon, etc. Le pasouk continue et dit, Ubayom ashmini yimol, le huitième jour, il sera circoncis. Le pasouk parle donc clairement d'un enfant mâle dès la naissance. Nous pouvons donc apprendre de là que la mitzvah particulière de circoncire l'enfant le huitième jour ne sera appliquée ad sheyehe zachar mishat leda que si cet enfant est mâle dès la naissance. Mais si c'est un tumtum, et ce n'est que plus tard qu'il s'est avéré qu'il s'agissait d'un garçon, il n'y aura pas de mitzvah particulière de le circoncire le huitième jour. Rav Shravi Amar, af en imot mealeda. Sa mère n'aura pas l'impureté de la femme qui enfante à l'occasion de sa naissance. C'est-à-dire, comme le pasouk l'explique dans Vaikra Yudbet, une femme qui enfante un garçon est tout d'abord impure pendant 7 jours, et cela indifféremment s'il y a écoulement sanguin ou non. Puis elle observe 33 jours, pendant lesquels elle est considérée pure, qu'elle ait ses règles ou non. Si elle a enfanté une fille, elle sera tout d'abord impure pendant 14 jours, puis pendant les 66 jours qui suivent, elle sera pure, qu'elle ait ses règles ou non. Ces lois ne s'appliqueront pas à la femme qui a enfanté un tumtum, et cela même lorsque par la suite, il sera déterminé si cet enfant était un garçon ou une fille. Dehamakra, parce que le pasouk dit dans Vaikra Yudbet, Isha kitazria veyalda zahar, une femme qui sera fécondée et enfantera un mâle, vetam'a shivat yamim, elle sera impure pendant 7 jours. Le pasouk parle donc clairement d'une femme qui a mis au monde un mâle dès sa naissance. Nous pouvons donc déduire que ces lois de pureté ou d'impureté ne s'appliqueront que ad sheyihe zachar mishat leda, que lorsqu'il s'agit d'un mâle dès sa naissance. Autrement, c'est-à-dire par exemple dans le cas où elle a enfanté un tumtum, cette femme sera uniquement impure comme la femme qui a ses règles, donc elle sera impure pendant 7 jours, mais il n'y a pas de jour de pureté. D'ailleurs, même s'il s'avère par la suite qu'il s'agissait d'une fille, elle ne sera pas impure non plus pendant 14 jours, parce que lorsque le pasouk parle de la femme qui enfante une fille, le pasouk précise clairement aussi Ve'im nekeva teled, et si elle enfante une femelle, etc. Le pasouk parle donc clairement d'une femme qui met au monde une femelle dès sa naissance, donc ces lois ne s'appliqueront pas si ce n'est pas une femelle à la naissance. Métivé, on a opposé une Mishnah dans Nida Daf Kafret à cet enseignement de Rav Shravia. La Mishnah dit Hamapelet Tumtum Vandroginos, une femme qui avorte spontanément. Un Tumtum, qui est un enfant atteint d'une malformation congénitale où ses organes génitaux sont recouverts par une membrane, ou bien si elle a mis au monde un Androginos, qui est un androgyne, c'est-à-dire qui possède à la fois les organes génitaux d'un mâle et ceux d'une femelle. Dans les deux cas donc, nous sommes en doute si elle a enfanté un garçon ou une fille. Teshev la zachar vela nekeva. Elle s'assoira, c'est-à-dire elle comptera les jours de pureté et d'impureté, à la fois pour la naissance d'un garçon et pour la naissance d'une fille. C'est-à-dire, puisque comme nous l'avons dit, nous sommes en doute si elle a enfanté un garçon ou une fille, elle sera considérée impure pendant 14 jours, comme si elle avait enfanté une fille, parce qu'il est possible que c'était une fille. Mais après cela, elle ne sera considérée pure que jusqu'au 40e jour après la naissance, parce qu'il se peut que c'était un garçon. En tout cas, nous voyons dans cette Mishnah que nous accordons à ce Tumtum ou à cet Androgynos soit le titre de garçon, soit le titre de fille. À cause du doute, donc, elle devra prendre en considération les deux possibilités. Contrairement à l'opinion de Rav Shravia que nous avons vu plus haut, les lois d'impureté qui suivent la naissance ne s'appliquent pas pour la naissance d'un Tumtum ou d'un Androgynos qui ne sont considérés ni garçon ni fille. Finalement, Tiuvta de Rav Shravia, nous avons ici une opposition à l'opinion de Rav Shravia. La Gemara conclut, Tiuvta, effectivement, c'est une réfutation définitive. Alors la Gemara demande, Lema Tehave Tiuvta de Rav Shizbi, peut-être que cette Mishnah dans Maseret Nida serait une réfutation de l'opinion de Rav Shizbi, parce qu'il a appris du même pasouk que pour le Tumtum, même si par la suite, dans les jours qui suivent sa naissance, il s'est avéré que c'était un garçon, il n'y a pas de mitzvah particulière de le circoncire le 8e jour. Parce que finalement, si nous voyons dans cette Mishnah de Maseret Nida que le pasouk concernant l'impureté qui suit la naissance parle aussi d'un enfant à propos duquel nous étions en doute à sa naissance si c'était un garçon ou une fille, on ne devrait pas pouvoir déduire que la mitzvah de circoncire l'enfant le 8e jour ne s'applique pas pour le Tumtum. L'Agma répond, Tana se fouke mesafkale. En fait, le Tana est en doute si ce pasouk exclut le Tumtum ou l'Androgynos ou non. Vela Khumra. Par conséquent, nous irons toujours à la Khumra. Donc, lorsqu'il s'agit de circoncire l'enfant le Shabbat, puisque nous sommes en doute, comme nous l'avons expliqué, sa circoncision sera différée, comme l'a enseigné Rav Shizbi. Mais lorsqu'il s'agit d'observer les jours de pureté ou d'impureté, nous irons au contraire à la Khumra, et cette femme sera déclarée impure pendant 14 jours, à cause du doute, peut-être, que nous considérons cet enfant comme une fille. Alors la Gemara demande, Yachi, si c'est ainsi que l'auteur de la Mishnah est en doute, si le Tumtum est exclu du paragraphe dans Vaikra Yudbet ou non, Teshev la Zachar vela Nekeva vela Nida Mivaele. L'auteur de la Mishnah aurait dû enseigner que cette femme doit s'asseoir, donc doit observer les jours de pureté pour le garçon, pour la fille, et pour la femme qui a simplement ses règles. C'est-à-dire, puisqu'il y a une possibilité que pour la naissance d'un Tumtum, la femme ne doit pas observer les jours de pureté et d'impureté qui suivent la naissance, la Mishnah aurait dû aussi enseigner qu'à cause de ce doute, cette femme doit observer deux jours d'impureté comme la femme qui a simplement ses règles. Finalement, même si elle a de nouveau ses règles, après les 14 jours qui suivent la naissance, avant que ne s'écoulent les 40 jours qui suivent la naissance, cette femme ne devrait pas être pure comme la femme qui a enfanté un garçon, mais plutôt comme une femme qui a simplement ses règles. Mais quand même, elle devra aussi tenir compte de la possibilité que cet enfant était peut-être un garçon. Parce que selon les lois énoncées par la Torah, une femme qui a ses règles est impure pendant 7 jours. À la fin du 7e jour, elle se purifiera dans un mikvé et sera considérée pure. Les 11 jours qui suivent sont considérés des jours hors cycle. Si une femme a un écoulement de sang pendant 7 jours, elle n'est pas considérée Nida. Les lois en effet seront différentes. Si elle a un écoulement de sang pendant 1 ou 2 jours, elle observera un jour de pureté. Si elle a cet écoulement de sang pendant 3 jours consécutifs, elle devra observer 7 jours de pureté, puis ensuite se purifier dans un mikvé et offrir un korban. Alors maintenant, dans le cas de cette femme qui a enfanté un tumtum, si vers la fin de la période de 40 jours qui suivent la naissance, elle a eu ses règles, il est possible donc, comme nous l'avons expliqué, que pour cette femme qui a enfanté un tumtum, les lois de l'impureté ou de pureté qui suivent la naissance ne s'appliquent pas. Elle sera donc considérée comme une femme qui a simplement ses règles. Si au bout de 7 jours, donc après que la période de 40 jours se soit écoulée, elle a à nouveau eu ses règles, nous considérons ses règles comme étant hors cycle, elle sera considérée donc Zava, comme nous l'avons expliqué. Mais si nous considérons que cette femme a mis au monde, par exemple, un garçon, en fait, la première fois qu'elle a eu ses règles, pendant les 40 jours qui suivent la naissance, elle reste quand même pure, et c'est lorsqu'elle a eu ses règles à nouveau, après que la période de 40 jours qui suivent la naissance se soit écoulée, elle est devenue impure, comme la femme qui a eu ses règles. Elle sera donc considérée Nida et non Zava. Elle ne devra donc pas offrir de korban, elle ne devra pas non plus observer 7 jours de pureté. Finalement donc, elle restera dans le doute. Il faudra qu'elle observe 17 jours de pureté, comme la Gemara l'explique dans Erchin Dafret, pour être persuadée de commencer un nouveau cycle de femme normale. Nous noterons cependant qu'aujourd'hui, ces questions ne se posent pas, parce que les Chachamim ont décrété, comme c'est enseigné dans Masechet Nida, que pour tout écoulement de sang, une femme doit observer 7 jours de pureté. En tout cas, donc, la question se pose, pourquoi est-ce que la Mishnah n'a pas précisé aussi qu'elle doit tenir compte de la possibilité qu'elle est considérée comme une simple femme qui a eu ses règles? La Gemara répond, Kashia, c'est une question qui reste sans réponse. La Gemara n'a pas trouvé de réponse sur le moment. Tania Kevate de Rabbi Ami. Il a été enseigné une braïta qui soutient l'opinion de Rabbi Ami, qui a dit plus haut que s'il est né etumtum, il ne reçoit pas double part dans l'héritage. En effet, cette braïta interprète le pasouk que nous avons mentionné plus haut, dans Dvarim Kafalef, le pasouk dit, Vehaya haben abechor la senia, et le fils aîné est né de la femme qu'il n'aimait pas. Il y a deux termes en plus, le terme de haben et le terme de habechor. Alors, la braïta interprète, ben velotumtum, lorsque le pasouk dit ben le fils, cela vient exclure le tumtum. Celui-ci donc ne recevra pas double part dans l'héritage. Bechor, lorsque le pasouk dit bechor est né, velosafek, cela vient exclure le cas où il y a un doute si cet enfant est l'aîné ou non. Alors, la Gemara demande, bishlama ben velotumtum. On comprend bien encore cette interprétation qui dit que le terme de ben vient exclure le tumtum, que de Rabbi Ami vient nous enseigner la même chose que Rabbi Ami. Et la Bechor velo safek, mais cette interprétation qui dit que le terme de Bechor vient exclure celui sur lequel il y a un doute si c'est l'aîné ou non, la Fukemai, qu'est-ce que cela vient exclure? Puisqu'il est évident que l'enfant qui est en doute si c'est un aîné ou non, par exemple parce qu'il y a des raisons de penser que le père a eu d'autres enfants auparavant. Dans ce cas, il est évident que cet enfant ne recevra pas double part dans l'héritage, puisque finalement, il doit prouver que c'est l'aîné pour recevoir double part. Donc pourquoi a-t-on besoin d'un pasouk pour l'exclure? L'agma répond, « Léa fouke midedarash Rava ». Ce pasouk vient exclure et contredire ce que Rava a enseigné publiquement. « Dedarash Rava », parce que Rava a enseigné publiquement. « Chez Tenachim, deux femmes d'un même homme qui devaient mettre au monde son premier enfant, chez Yaldou, Shtez Harim, Bemarba, qui ont mis au monde deux garçons en cachette, de manière à ce qu'il est impossible de savoir lequel des deux est né en premier, pour déterminer lequel des deux enfants est l'aîné. Finalement, aucun des deux enfants ne peut se présenter pour réclamer double part, parce que les autres frères lui diront, prouve-le que tu es l'aîné. Alors Rava dit là-dessus, Kotvim Harsha'a Zeleze, l'un des deux écrira un droit de procuration à l'autre, ainsi, il pourra réclamer la double part, soit en son nom, soit au nom de son frère. Et c'est justement ce cas que le pasouk vient exclure, pour nous enseigner donc que même avec procuration, ils ne pourront pas réclamer la double part, puisque finalement, chacun des deux est en doute si c'est l'aîné ou non. Amar le Rav Papa le Rava. Rav Papa a posé la question suivante à Rava. Vehashalach Ravin. Pourtant, Ravin a envoyé le message suivant. Davarze shalti le chol rabotai. Cette question, je l'ai posée à tous mes maîtres, velo amrouli davar, et ils ne m'ont rien répondu à cette question. Beram kach amrou mishum Rabbi Anai. Cependant, ils ont dit la chose suivante au nom de Rabbi Anai. Hukru ulebasov mitarvu. Si au moment de la naissance, on a pu reconnaître lequel des deux était l'aîné, et puis par la suite, ils se sont mélangés, c'est-à-dire, il a été oublié lequel des deux était l'aîné. Dans ce cas, kotvin harsha'a zelazé, L'un des deux pourra écrire une procuration à l'autre pour pouvoir réclamer ensuite une double part dans l'héritage. Lo hukru, mais si au moment de leur naissance on n'a pas pu reconnaître lequel des deux était l'aîné, en kotvin harsha'a zeleze, l'un des deux ne pourra pas écrire une procuration à l'autre pour pouvoir réclamer ensuite une double part dans l'héritage. Et cela parce que, comme nous l'avons dit, nous l'avons exclu du pasouk que nous avons mentionné plus haut, donc du terme de Bechor. Donc finalement, Rafapa demande à Rava, comment se fait-il que tu dis qu'en toutes circonstances, l'un des deux pourra écrire une procuration à l'autre pour pouvoir réclamer ensuite la double part dans l'héritage? Hadar oke Rava amora ale. Rava a rappelé son orateur, qui répétait et expliquait ses discours au public, Vedarash, et il a enseigné publiquement, Dvarim shamarti lachem taout hen beadi. Ce que je vous ai dit précédemment était une erreur. Beram kach amru mishum Rabbi Anai. Cependant, c'est ainsi que les Chachamim ont dit au nom de Rabbi Anai. Hukru ulbasov nitarvu. Si on a pu reconnaître à la naissance lequel des deux était l'aîné, et puis après, ils se sont mélangés, c'est-à-dire on a oublié lequel des deux est l'aîné. Kotvin harsha'a zelazé. L'un pourra écrire une procuration à l'autre pour pouvoir ensuite réclamer la double part dans l'héritage. Lo hukru. Mais s'ils n'ont pas été reconnus à leur naissance, en kotvin harsha'a zelazé, l'un ne pourra pas écrire de procuration à l'autre pour pouvoir ensuite réclamer la double part dans l'héritage, comme nous l'avons expliqué. En effet, le terme de Habechor vient exclure le cas où, dès la naissance, il y avait un doute à savoir lequel des deux était l'aîné. Mais si, à la naissance, on a pu reconnaître lequel des deux était l'aîné, ce cas n'est pas exclu par le Passouk, et c'est pour cela que l'un pourra écrire une procuration à l'autre pour pouvoir réclamer ensuite la double part dans l'héritage. Shalchule bene Akra de Agma le Shmuel. Les habitants de l'endroit appelé Akra de Agma ont envoyé la question suivante à Shmuel. Ilamdenu Rabenu, que notre maître nous enseigne. Hayu Murzakim beze Shehu Bechor. Si tout le monde était persuadé qu'un tel était l'aîné, Ve'amar Aviv Alacher Bechorou, et son père a dit sur un autre enfant que c'était lui l'aîné, Mahu Kelele Alacha. Est-ce que nous croyons le père, ou bien est-ce que nous suivrons le statut qui existait auparavant, selon lequel c'était l'autre enfant qui était l'aîné?
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Shalach lehu, il leur a envoyé la réponse suivante. Kotvin harsha'a, nous tournons la page à Davkou Kavzain Amoudbet, Zelazé. L'un des deux écrira une procuration à l'autre pour pouvoir réclamer ensuite la double part dans l'héritage. Autrement dit, Shmuel leur a répondu qu'il ne savait pas si nous croyons le père ou bien est-ce que nous suivons le statut d'auparavant. C'est pour cela donc que la chose reste dans le doute et l'un des deux devra écrire une procuration à l'autre pour pouvoir réclamer la double part dans l'héritage. Alors la Gemara demande, Manapshach, de toute façon, il existe une réponse. Ikerabanan Tzvirale, si Shmuel pense comme les Chachamim que nous verrons plus loin, Lishlach Lehu Kerabanan, il n'avait qu'à leur envoyer une réponse en accord avec l'opinion des Chachamim. Ikerabi Yuda Tzvirale, si Shmuel pense comme l'opinion de Rabbi Yuda, que nous verrons plus loin, Lishlach Lehu Kerabi Yuda, il n'avait qu'à leur envoyer une réponse en accord avec l'opinion de Rabbi Yuda. L'Agma répond, Mesav Kale, Ikerabi Yuda, Ikerabanan. Justement, Shmuel était en doute si la halakha est comme Rabbi Yuda ou comme Rabbanan, et c'est pour cela donc que la seule solution qu'il a trouvée, c'était d'écrire une procuration pour pouvoir réclamer ensuite la double part dans l'héritage. Alors la Gemara demande, Maihi, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire, quelle est cette discussion entre Rabbi Yuda et Rabbanan à laquelle nous avons fait allusion plus haut? La Gemara répond, de Tania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Dvarim Kafalef concernant le droit d'aînés. Le pasouk dit, qui est Abechor ben Asnoa, Yakir, etc. Car l'aîné, fils de la femme qu'il n'aime pas, il reconnaîtra pour lui accorder une double part dans l'héritage. Alors la Braïta interprète, Yakir, il reconnaîtra, cela veut dire, Yakirenu l'Acherim, il le fera connaître aux autres. Autrement dit, c'est au père à faire connaître aux gens qui l'entourent lequel des enfants est l'aîné. Mikan Amar Rabbi Yuda, de là Rabbi Yuda a dit, c'est-à-dire de là il a déduit, Neman Adam Lomar Zebeni Bechor. Un homme est cru lorsqu'il dit que cet enfant, c'est mon fils aîné. Et cela, même si cela contredit le statut d'un autre enfant, que l'on croyait que c'était lui l'aîné. Ou que Shem Sheneman Adam Lomar Zebeni Bechor, de la même manière qu'une personne est crue lorsqu'elle dit, celui-ci, c'est mon fils aîné. en toutes circonstances, car Neeman Adam Lomar, Ze Ben Groucha, Ve Ze Ben Chalutza. Ainsi aussi un homme est cru lorsqu'il dit que celui-ci, mon fils donc, est le fils d'une femme divorcée. C'est-à-dire si cette personne était un Cohen, on le croira lorsqu'il dit qu'il s'est marié avec une femme divorcée et que cet enfant est issu de ce mariage. Par conséquent, l'enfant sera déclaré halal, impropre à être Cohen, donc à servir dans le Beit HaMikdash. Ou bien, celui-ci, donc mon fils, est le fils d'une femme chalutza. C'est une femme dont le mari est décédé sans laisser d'enfant, et le frère de son mari a fait la cérémonie de la chalitza, donc le déchaussement, pour la permettre de se marier avec n'importe qui. Celle-ci n'a pas le droit de se marier avec un Cohen. Donc si le père qui est Cohen dit qu'il s'est marié avec une femme qui était chalutza, et cet enfant est issu de ce mariage, il sera déclaré fils de chalutza, donc aussi halal midrabanan. Bachachamim omrim, et non neman, mais les chachamim disent qu'on ne le croira pas lorsqu'il témoigne que l'un de ses enfants est l'aîné, alors que ce témoignage contredit le statut d'un autre enfant. Ou bien aussi, on ne le croira pas lorsqu'il déclare que son enfant est le fils d'une femme divorcée ou d'une femme qui a subi la cérémonie de la chalitza, et donc l'enfant est halal. En tout cas, nous voyons une discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir si un père peut témoigner que l'un de ses enfants est l'aîné, alors que ce témoignage contredit le statut d'un autre enfant. Comme nous l'avons dit, Shmuel était en doute, est-ce que l'Halakha est comme Rabbi Yehuda ou comme les Chachamim? Par conséquent, lorsqu'un cas pareil se présente, la seule solution sera que l'un des deux écrive une procuration à l'autre pour pouvoir réclamer ensuite la double part dans l'héritage. Amar le Rav Nachman Bar Yitzhak le Rava. Rav Nachman Bar Yitzhak a posé la question suivante à Rava. Bishlama le Rabbi Yehuda. On comprend bien encore selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Haynu dirtiv yakir. Nous comprenons pourquoi le pasuk dit yakir. Il reconnaîtra l'enfant, c'est-à-dire il fera connaître aux autres lequel de ses enfants est l'aîné, même contre le statut d'un autre enfant. Et là le Rabbanan. Mais selon l'opinion de Chachamim, yakir lamali. Pourquoi a-t-on besoin de ce pasuk? Puisque le pasouk n'accorde pas de droit de témoignage au père, ce pasouk nous enseigne rien. L'agma répond, Betsarich Hekera. Le pasouk nous enseigne que le père a quand même un droit de témoignage, mais c'est dans un cas où il est nécessaire de faire savoir qui est l'aîné. C'est-à-dire dans le cas d'une famille qui est arrivée récemment dans cet endroit, et personne ne sait qui de ses enfants est le plus âgé. Mais si déjà nous savions auparavant que l'un de ses enfants était l'aîné, le père n'aura aucun droit de témoignage pour contredire le statut de l'aîné actuel. Alagmar demande, le maïl cheta, pourquoi a-t-on besoin de faire savoir qui est l'aîné? Le mitvalo pishnaim, c'est simplement pour lui donner double part dans l'héritage. Lo yehe el acher, même si cet enfant était un étranger, ilu ba'e le mitvaleh bematana, s'il voulait lui faire cadeau d'une part dans l'héritage, milo yahivle, il n'aurait pas pu le faire. Donc s'il pouvait donner une part de son héritage à n'importe qui, il est évident qu'il devrait pouvoir aussi donner une double part à l'un de ses enfants. Donc finalement, du fait qu'il aurait pu faire cadeau d'une deuxième part à l'un de ses enfants, on devrait aussi le croire lorsqu'il dit que celui-ci est son aîné. Finalement, nous n'avons pas besoin de pasouk pour nous enseigner que le père a un droit de témoignage dans ce cas. Alors que selon Rabbi Yehuda, il y a ici un grand chidouche, parce que même s'il pouvait faire cadeau d'une part de l'héritage à un étranger ou à l'un de ses enfants, cela ne lui accorderait pas un droit de témoignage pour contredire un statut existant auparavant. L'agma répond, l'otricha, le pasouk, n'a eu besoin de nous enseigner cela, donc que le père a un droit de témoignage pour faire connaître son aîné, uniquement concernant ben chassim shenafulo lachar mikan, des biens qu'il aurait hérité par la suite, c'est-à-dire après ce témoignage. Autrement dit, il est vrai qu'on devrait le croire que tel de ses enfants est l'aîné parce qu'il aurait pu lui faire cadeau des biens qu'il possédait déjà à ce moment, mais en fait, pour les biens qu'il acquérera par la suite, et par conséquent, il ne pouvait pas encore en faire cadeau à cet enfant, il n'y aurait pas eu de raison de le croire. C'est pour cela donc que le pasouk nous enseigne que même concernant les biens que le père a acquis par la suite, celui-ci aura un droit de témoignage. Alagmar demande, ou le Rabbi Meir de Amar Adam Makne Davar Shelo Bala Olam, et selon l'opinion de Rabbi Meir, qui dit qu'un homme a la possibilité de vendre ou de donner un objet qui n'existe pas encore. Et d'ailleurs, en général, celui qui discute avec Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir. Donc finalement, nous pouvons estimer que c'est Rabbi Meir qui pense que le père n'a pas de droit de témoignage pour contredire le statut de son aîné. Yakir, l'Amali, pourquoi a-t-on besoin du pasouk de Yakir pour nous enseigner que le père a un droit de témoignage lorsqu'il ne contredit pas le statut d'un autre enfant, alors qu'il aurait pu de toute façon lui faire cadeau d'une part supplémentaire dans l'héritage, même concernant les biens qu'il acquérera par la suite? La Gemara répond, Benechassim shenaflulok shehu gosses. Le pasouk a besoin de nous enseigner que le père a un droit de témoignage, même si ce n'est pas pour contredire le statut d'un autre enfant, concernant des biens qu'il aura hérités dans une situation où il est mourant. Parce que même si une personne peut vendre ou donner des biens qu'il acquérera par la suite, cette transaction ne sera valable que s'il acquiert ses biens dans une situation où il est en mesure de conclure une transaction. Mais s'il acquiert des biens dans une situation où il n'est pas en mesure de conclure une transaction, la transaction future qu'il a faite auparavant ne sera pas valable, puisqu'au moment où celle-ci doit prendre effet, il n'est pas en mesure de faire lui-même une transaction. C'est pour cela que le pasouk a besoin de nous enseigner que le père a un droit de témoignage pour faire connaître son fils aîné, pour qu'il lui soit accordé une double part dans l'héritage, même à partir de biens que le père aurait hérité lorsqu'il était mourant. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta, Hayu murzakin bo shehu bechor, si nous étions persuadés concernant l'un des enfants d'une famille que c'était lui l'aîné, et son père a dit sur un autre enfant que c'est lui l'aîné, Ne'eman, on le croit. Hayu murzakin bo she'eno bechor, si nous étions persuadés concernant l'un des enfants d'une famille que ce n'était pas l'aîné, ve'amar aviv bechorhu, et son père a dit sur lui que justement c'est lui l'aîné, et non Ne'eman, on ne le croit pas. Les deux enseignements de la Braïta sont contradictoires. La Gemara explique, Recha Rabbi Yehuda, la première partie de la Braïta suit l'opinion de Rabbi Yehuda, selon laquelle le père a un droit de témoignage même pour contredire le statut d'un autre enfant, Vesefa Rabbanan, et la dernière partie de la Braïta suit l'opinion de Chachamim, selon lesquelles le père n'a pas de droit de témoignage pour contredire le statut d'un autre enfant. Nous noterons qu'il semblerait que le Rashbam inverse l'ordre des enseignements de la Braïta, mais point de vue de Halakha, cela revient au même. Amar Rabbi Yochanan, Amar Benihu, s'il a dit sur une personne, celui-ci c'est mon fils, Vechazar Vamar Avdihu, puis il s'est ravisé, il a dit, celui-ci c'est mon esclave, et non Ne'eman, on ne le croit pas. C'est-à-dire, puisque son second témoignage contredit le premier, c'est le premier qui sera accepté, et non pas le second. Parce que si la Torah a accordé un droit de témoignage au père, elle ne lui a pas accordé le droit de se rétracter. Avdihu, mais s'il dit, sur une personne, celui-ci c'est mon esclave, Vechazar Vamar Benihu, puis il s'est ravisé et il a dit, celui-ci c'est mon fils, Ne'eman, on le croit. Demeshameshli Keavda Kamar, parce que lorsqu'il a dit que celui-ci c'est mon esclave, il a simplement voulu dire qu'il me sert comme un esclave. Donc finalement, nous pouvons interpréter ses paroles de manière à ce que son second témoignage ne contredit pas le premier. En fait, il a voulu dire que c'est son fils qui le sert comme un esclave. C'est pour cela que son second témoignage sera accepté et celui-ci sera déclaré son fils. Bechiloufé, abet ameches, et la halakha est le contraire concernant une personne qui traverse la douane. C'est-à-dire, la Gemara précise, haya over albet ameches, si une personne traversait la douane, qui faisait payer des taxes sur les esclaves, ve'amar, il a dit, sur une des personnes de son entourage, benihu, celui-ci c'est mon fils, ve'chazar ve'amar avdihu, puis il s'est ravisé après avoir traversé la douane et il a dit, celui-ci c'est mon esclave, Ne'eman, on croira son second témoignage. Parce qu'il est évident qu'il a dit que celui-ci était son fils uniquement pour éviter de payer des taxes. Amar avdihu, mais s'il a dit sur l'une des personnes de son entourage, celui-ci est mon esclave, Vechazar Vamar Benihu, puis il s'est ravisé après avoir traversé la douane, il a dit, celui-ci c'est mon fils, et non Ne'eman, on ne le croira pas. Parce qu'il est évident qu'une personne n'aurait pas dit sur son fils que c'est son esclave pour devoir payer des taxes. C'est pour cela donc que cette personne sera déclarée esclave, son second témoignage ne sera pas accepté. Mais Tivé, on a opposé à Rabbi Yochanan la braïta suivante, Haya Meshamcho Keben, si un esclave le servait comme un fils, c'est-à-dire il le nourrissait et il l'habillait, mais il ne faisait pas de travaux dégradants comme un esclave. ou Bava Amar Benihu, puis il est venu, il a dit, celui-ci c'est mon fils, Vechazar va Amar Avdihu, puis il s'est ravisé et il a dit, celui-ci c'est mon esclave, et non Neeman, on ne le croira pas, c'est-à-dire son second témoignage n'est pas accepté. Hayam et Shamsho Keved, si cette personne le servait comme un esclave, c'est-à-dire il faisait pour lui même des travaux dégradants, ou Bava Amar Avdihu, puis il est venu, il a dit, celui-ci c'est mon esclave, Vechazar va Amar Benihu, puis il s'est ravisé, il a dit, celui-ci c'est mon fils, et non Neeman, on ne le croira pas. Et cela, bien qu'il le servait réellement comme un esclave, il y avait donc tout lieu d'interpréter ses paroles pour vouloir dire que c'était son fils qui le servait comme un esclave. Quand même, la Breta nous enseigne que le second témoignage n'est pas accepté. Ce qui contredit l'enseignement de Rabbi Yochanan, qui dit que même dans un cas où cette personne ne le servait pas comme un esclave, et il a dit au départ c'était son esclave, puis il s'est ravisé, il a dit que c'était son fils, que son second témoignage est accepté, puisque nous pouvons quand même interpréter ses paroles, selon Rabbi Yochanan, qu'il voulait dire que c'était son fils qui le servait comme un esclave. L'Agma répond, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Hatam dans la Braïta, de Karoulé, Avdam et Tsarmea. Il ne s'agit pas d'un cas où il a simplement dit que celui-ci était son esclave, mais il a dit que celui-ci était son esclave Metsarmea. Alors l'Agma demande, Maï Metsarmea, que veut dire cette expression Metsar Mea? La Gemara répond Metsar Avda Meazouze. À la limite de cet esclave se trouve sans ouze. Autrement dit, c'est un esclave qui vaut sans ouze. Autrement dit, même si une personne peut des fois traiter son fils d'esclave parce qu'il le sert comme un esclave, mais il ne dira jamais de son fils que c'est un esclave qui vaut sans ouze. Donc s'il l'a dit, il ne pourra plus revenir sur ses paroles pour dire que, en fait, c'est son fils, et qu'il a simplement voulu dire que c'est un fils qui le sert comme un esclave. Nous avons fini ici le shiur de Baba Batra Daf Kuf Rav Zayin. Nous commençons le shiur de Baba Batra Daf Kuf Kafret. Nous commençons Daf Kuf Kaf Zayin Amud Bet, à la deuxième ligne du bas de la page. Nous verrons ici dans ce daf une suite d'enseignements que Rabbi Abba a envoyé à Rabbi Yosef Bar Chama. La raison pour laquelle l'Agmara les emmène, c'est parce que l'un de ces enseignements a un rapport avec le droit d'aînés que nous traitons actuellement. Alors l'Agmara dit, Shalach le Rabbi Abba le Rabbi Yosef Bar Chama. Rabbi Abba a envoyé l'enseignement suivant à Rabbi Yosef Bar Chama. Haomer le Chavero Abdi Ganavta, celui qui dit à son prochain, tu as volé mon esclave. Vehu Omer lo Ganavti, et l'autre lui répond, je ne t'ai pas volé ton esclave. Alors le revendicateur lui demande, Mativo Etzlecha, qu'est-ce que cet esclave fait chez toi? Et l'autre lui répond, Atam Echartoli, tu me l'as vendu.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.